Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
Jeudi 9 septembre, bonne journée, bienvenue au 98.5. Alors ce matin, le ciel est dégagé. Ça va ressembler en termes de prévision là, à ce qu'on a connu hier, c'est-à-dire soleil, nuages en alternance, 40% de probabilité d'averse au cours de l'après-midi, risque d'orage. Il y a peut-être un peu de brouillard dans votre coin, mais bien sûr, ça va se dissiper. Et le maximum aujourd'hui, 24, l'humidex, 29. Pour ce qui est de demain, on prévoit du temps couvert, un peu de soleil aussi, surtout le matin, avec un maximum prévu demain de 19 degrés. Pour le week-end, l'aperçu samedi, belle journée du soleil, 24 pour Montréal, alors que dimanche, davantage couvert, possiblement de la pluie, des averses, et autour de 22 degrés. On parlait politique, le débat, des sondages ce matin, mais la nouvelle sérieusement, la plus importante, c'est l'enquête publique sur le CHSLD Aaron. On le savait, le journaliste Aaron Derfeld avait dévoilé le scandale, mais là, des témoignages s'additionnent, et vous lisez ça dans la presse de ce matin, puis j'ai vu les autres reportages aussi, c'est épouvantable. Il n'y a pas de mots pour qualifier ça. Quand on apprend, par exemple, et là, le témoignage, entre autres, de Dr Nadine Larente, qui est la directrice des services professionnels. Elle est en réunion. On est en pleine crise, la pandémie. Et c'est une médecin de Aaron qui lui demande de l'appeler. C'est un SOS. Là, le message se passe. Semble-t-il que le directeur des ressources humaines était au courant. Et les gens sautent dans leur voiture et arrivent sur place. Le centre est déserté. L'odeur, je cite l'article, l'odeur nauséabonde dans l'ascenseur. Les assailles dès l'ouverture des portes. Il fait sombre, le plancher est sale, très collant. Un chariot plein de plateaux de nourriture presque intouchés. Plateau pour le déjeuner. Il est 18h15. Ces gens-là n'ont pas mangé. La propriétaire et son mari sont sur place. Elle va au deuxième étage, un seul employé est au travail. Au troisième, il n'y a personne. Et ce qu'on découvre, c'est que les gens n'avaient pas déjeuné, n'avaient pas dîné, donc n'avaient pas mangé. Du pâté chinois, on peut s'imaginer, froid. Les résidents ne veulent rien savoir. Ils sont assoiffés, ils ont la peau et les lèvres sèches. Elle dit, j'ai vu des résidents boire 2-3 verres d'eau et nous embrasser les mains par-dessus les gants pour nous remercier. Selon elle, ils ont soif, pas juste depuis aujourd'hui. Et si je résume, c'est que la situation n'est pas attribuable uniquement à la crise, au personnel qui s'est poussé, mais que c'était des conditions inacceptables avant même la pandémie. C'est une enquête publique de la coroner Gayane Kamel. Et rappelons, le mandat d'une coroner, c'est d'établir les circonstances, établir la cause et faire des recommandations. On sait déjà qu'il n'y aura pas d'accusation aux criminels dans Aaron. Mais c'est épouvantable, c'est une honte nationale. Et le gouvernement du Québec refuse une vraie commission d'enquête publique, se contente d'éparpiller les enquêtes. La classe politique se protège, et je ne parle pas juste du gouvernement actuel. Parce qu'on a beau, dans le débat des chefs, nous parler des normes nationales, puis il faut investir, puis le grand discours, là. Ça fait des années qu'il y a négligence, manque de personnel, manque de financement. Mais est-ce qu'on aurait pu un jour penser que des gens, que des personnes âgées, en fin de vie, auraient été traités de cette façon-là? Pas d'hygiène, pas d'eau, pas de repas. Sérieusement, au Québec, Puis ça passe, là, facilement. Et on comprend, la classe politique ne veut pas de commission d'enquête publique. Trop. Hey, imaginez, là, s'il fallait qu'on sorte ça en pleine campagne électorale. Gaétan Barrette a dit hier qu'il voulait revenir comme ministre de la Santé si jamais les libéraux prenaient le pouvoir, ce qui semble pas être, disons, la tendance, là. Et il défend ses réformes en disant « ça prend deux mandats pour les compléter, puis c'est à la CAQ de finir ce qu'il avait amorcé ». Mme Castonguay n'a pas donné tout à fait le même compte-rendu. Mais c'est inadmissible ce qui est arrivé là. Et on a le droit de s'indigner de ça, c'est un scandale. Il n'y a pas d'autre mot. Vous pourrez lire ça, entre autres, dans la presse de ce matin. Maintenant, le débat des chefs. J'ai écouté ça 60% du débat hier, à peu près. Je vous le dis d'entrée de jeu, j'adore la politique, mais je déteste, jaillis cette formule de débat. Je trouve que ça limite les échanges. C'est une chorégraphie où l'animateur arrive, Noémie Mercier seconde, introduit la question citoyenne, un journaliste de la presse arrive. On a-tu besoin de ça? Perso, là, non. Puis je sais que je me ferai pas des amis, mais les questions des citoyens, je comprends que c'est cute, là, le petit garçon d'11 ans qui est inquiet pour ses enfants, là, qui pose une question sur l'environnement. Ça permet juste aux politiciens de ramasser ça, là, puis je suis content, puis... pour moi, ça n'apporte rien. Bon, peut-être qu'il aime ça. C'est un débat qui change rien. On a parlé de quoi? De pandémie, de COVID. On a parlé des normes nationales, d'ingérence fédérale, de l'absence de financement. T'sais, le fédéral peut bien dire que le Québec puis les autres provinces ont négligé les centres de soins de longue durée. Mais on peut-tu juste se rappeler deux, trois choses? Le sous-financement des services de santé au Québec. L'espèce de crainte maladive d'appeler l'armée en pleine pandémie. On avait-tu peur de ça, nous autres, là? Hey, on n'est pas pour demander à l'armée. On n'est pas pour déployer. Aux États-Unis, la garde nationale est déployée dans des hôpitaux où ça déborde. Mais nous autres, non, on peut pas faire ça. Et là, on débattait hier d'enjeux. Les garderies. Toute la saga autochtone. Autrement dit, je sais pas si votre idée est faite, je pense pas que le débat va modifier grand-chose. Le constat qu'on peut faire, c'est qu'on est en élection pour une raison stratégique de la part de M. Trudeau, qui voulait avoir un gouvernement majoritaire, et on voit les sondages, c'est une bataille à la grandeur du Canada, là, nez à nez. On se dirige vers un gouvernement minoritaire, conservateur ou libéral. Tout ça parce que M. Trudeau a décidé de nous envoyer en élection, alors que tout ce qu'il dit depuis le début, tout ce qu'il promet, aurait très bien pu le faire à la tête de ce gouvernement minoritaire. La grande question, est-ce que les gens vont aller voter le 20 septembre? Puis avant, là, est-ce que les Canadiens vont se présenter? Il y a des gens qui sont engagés, qui militent, qui ont leur candidat choisi. Il y a une bonne partie, puis c'est pas nécessairement des gens indécis. Parle à toutes sortes de monde, puis des gens désintéressés un peu, puis des gens qui regardent ça, puis qui disent « ouais ». Alors, qui va être premier ministre du Canada? Justin Trudeau, M. O'Toole. D'après les derniers sondages, puis méfiez-vous de certains sondages, je garde ça, il y a toutes sortes de firmes qui font des sondages. À un moment donné, le Bloc est dans le trouble. Après ça, le Bloc est en avance au Québec. Le Bloc va performer. La vraie question, est-ce que les conservateurs vont être capables d'aller chercher des sièges ici? Est-ce que les libéraux vont être capables d'aller peut-être en additionner pour éviter la défaite? Et on va analyser ça avec nos commissaires et Bernard tantôt. Je vous fais entendre l'extrait, cet accrochage, disons, entre Yves-François Blanchet et Justin Trudeau sur l'identité. Et bon, la saga des livres brûlés, M. Trudeau dit « moi, je me mêle pas de ça ». Que les Autochtones débattent de la question et voici comment tout ça a démarré avec le chef du Bloc.
Mais s'il ne faut pas dire aux nations autochtones quoi faire ou quoi penser, pourquoi dit-il à la nation québécoise quoi faire et quoi penser?
Parce que je suis Québécois, M. Blanchet, un ça fait que vous, vous oubliez constamment. Leçons. Je suis fier Québécois, que j'ai toujours été Québécois, que je serai toujours Québécois, mais non, vous ne m'accuserez pas d'être pas Québécois, M. Blanchet.
La démocratie québécoise s'exprime à l'Assemblée nationale du Québec et le premier ministre du Canada,
au gouvernement
qui me
du
laisse
Canada
pas parler,
aussi.
Doit avoir peur de quelque chose. Oui.
Bon, alors ça, c'est l'accrochage. Qui est Québécois? Qui a le droit de parler du Québec? Ça arrive au moment où on a un sondage. Le gouvernement du Québec, en fait, le parti, c'est un sondage commandé par le parti, par la CAQ, sont en caucus, alors ils remettent aux députés copie de sondage en disant, regardez, la gang, ça va bien. Sondage fait du 27 au 30 août. Ce que ça donne essentiellement, c'est que la CAQ est seule en tête et vraiment largement en avance. 11% d'indécis, ce qui donne, une fois tout ça réparti, 49% des intentions de vote. C'est une avance de 33 points sur le Parti libéral, qui est à 16. Et c'est un cru historique. Québec solidaire est pas loin, on est dans la marge, là, à 14. Le Parti québécois s'effondre. Il est à égalité avec le Parti conservateur d'Éric Duhaime. Éric Duhaime, lui, il monte. Il fait le plein des insatisfaits. Des gens qui sont contre les mesures, des gens qui sont contre le passeport. Bref, il y a cette tranche de l'électorat. Et même à Québec, il va chercher 20%. Si on résume ça ce matin, là, les partis qui sont clairs ont leur clientèle. La CAQ, nationaliste, se tient loin du débat constitutionnel, centre-droit. Notre ami Duhaime, conservateur, à droite, pas toujours très habile, des fois des drôles de messages, mais est en train de tirer de l'électorat vers lui. Québec solidaire, c'est clair, c'est à gauche. C'est souverainiste, en principe, pas tout le monde. Et c'est, évidemment, le Parti vert. Mais là, le Parti libéral, quel est son ADN? C'est quoi sa mission, là? On fait des promesses sur les garderies. C'est un parti actuellement qui tient grâce à l'électorat anglophone. Puis le Parti québécois se cherche. Sa raison d'être, première, suscite pas d'adhésion. Les Québécois semblent pas intéressés. Pour l'instant, tout ça peut évoluer. Mais donc, ça veut dire que depuis le début, puis c'est dans un an l'élection au Québec, c'est stable pour la CAQ, puis Québec solidaire. Des petits hauts, des petits bas, mais dans le cas du Duhaime, ça monte. Puis pour les libéraux, puis le PQ, c'est une catastrophe. Et j'imagine le recrutement des candidats. À part les fiefs anglophones, là, les comtés garantis pour le Parti libéral, à part Pascal Bérubé, je vois pas d'autres candidats du PQ à la prochaine élection qui peuvent regarder ça puis se dire « Ouais, pense que je peux gagner. » Ce qui fait que c'est un parti, est-ce qu'il va disparaître? Est-ce qu'il va se questionner? Mais c'est sûr, puis tu regardes le sondage à Québec, Duhaime, c'est 20%, là. CAQ, Québec solidaire, puis Duhaime. Le PQ et les libéraux, là, c'est comme inexistant. Dossier COVID, d'abord, on découvre que la quatrième vague frappe les garderies. Bien sûr, les milieux de travail, mais les garderies, pas mal. 16% des services de garde pour les enfants signalent des éclosions. Vous pourrez lire ça ce matin dans Le Devoir. La notion d'apprendre à vivre avec le virus, ben c'est un exemple. Et là, c'est sûr que pour les parents, que pour le personnel, c'est compliqué à gérer parce que là, on repart vers des périodes d'isolement à la maison. C'était relativement tranquille durant l'été. Donc, c'est le secteur le plus touché par les infections. Et les enfants de 9 ans et moins représentent 20%, quand même beaucoup, le 20% des 600 cas de COVID. Alors, c'est sûr que pour les enfants, les symptômes sont nettement moins graves. Ils arrivent à conjuguer ça, mais ils peuvent également transmettre la maladie. Et on sait que les jeunes enfants demeurent non vaccinés. Le vaccin n'est pas disponible, portent pas le masque. Puis on comprend que de garder une distance, c'est à peu près impossible. Et ce qu'on remarque aussi, c'est des directives de santé publique qui sont pas toujours très claires. Dans certains cas, ça prend du temps à se brancher, puis dans d'autres cas, on peut fermer des classes pour un seul cas. Et je sais également qu'on va annoncer des détails concernant le programme d'implantation là, des appareils pour mesurer la qualité de l'air. Semble que le processus d'appel d'offres, qui est assez singulier, on a vu le reportage du Journal de Montréal là-dessus, là. Moi, on m'écrit des gens qui sont dans le domaine puis qui ont dit ça tient pas la route. Là. D'abord, en termes de prix. Deuxièmement, il y a des gens qui n'ont pas d'expertise qui se ramassent là-dedans. C'est un peu ce que le journal soulignait. Et un séjour à l'hôpital à cause de la COVID coûte entre 15 000 et 50 000 $ au Canada. Et la personne qui est infectée, ça varie selon l'âge, là, les plus jeunes vont rester à l'hôpital plus longtemps. On est hospitalisé deux fois plus longtemps qu'une personne qui souffre, par exemple, de pneumonie. Et vous avez vu, on en a parlé hier matin, donc des vandales anti-vaccins qui s'en sont pris à une école, qui n'a aucun sens, mais bon. Les gens aussi qui avaient manifesté devant une école. Je vais parler un peu plus tard avec Geneviève Caumartin. Sa mère, Francine Bissonnette, a été assassinée par son conjoint, Daniel Derry, juin 2016. Ça fait 5 ans. Il vient d'obtenir ce qu'on appelle une semi-liberté, avec des conditions. Il ne peut pas aller sans avoir l'autorisation de son agent de surveillance à Brossard puis à Chambly, ce qui, semble-t-il, le dérange parce qu'il y a des restos préférés dans ce coin-là. Juste rappeler qu'il a tué une femme, quand même. Et j'ai lu la décision dans le détail. Quand tu commences à lire, tu dis on s'achemine vers un refus. Puis là, ça avance, puis on nous explique qu'il a suivi des thérapies. Contrôle de la colère, gestion de crise, que c'était un gars bien narcissique, qui était dans un moment dépressif. Bizarrement, il a vécu avec une femme qui est morte subitement. On n'en dit pas plus. Il ne voulait même pas remettre, semble-t-il, des souvenirs ou des objets personnels de cette femme décédée aux enfants de cette femme. Et vous comprendrez que Geneviève, comme Martin, ne comprend pas qu'on en soit rendu là. On va lui parler un peu plus tard ce matin. Je suppose que vous avez vu l'histoire des navettes autonomes de la Plaza Saint-Hubert. Alors, c'est un projet qu'on va tester. Et donc, autonome, ça veut dire pas de conducteur. Ils ont fait certains essais dans le bout du parc olympique. Et donc, c'est de permettre aux gens de se déplacer. C'est très dense, évidemment, dans le quartier. Alors, ce sont deux véhicules qui vont faire un parcours de 30 minutes des rues Saint-Hubert et Saint-André. Et la vitesse maximale, c'est 20 km/h. Donc, on a hâte de voir ça, évidemment, s'activer.
L'essentiel de Paul Arcand.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand.
C'est pour le moins singulier de voir les politiciens fédéraux en débat hier soir aborder la question du financement du réseau de la santé, de la contribution fédérale, des normes nationales que M. Trudeau souhaite décréter dans les résidences des personnes âgées et à travers le Canada. Puis on l'a vu, partout au Canada, il y a eu des horreurs, des patients, des résidents qui sont décédés. C'est un paradoxe parce qu'en même temps se déroule cette enquête publique de la coroner qui est dans le dossier et des centres comme Aaron. Et hier, je lisais les comptes rendus de la journaliste Gabrielle Duchesne. C'est épouvantable. Il n'y a pas de mots vraiment pour décrire ce que ces témoins sont venus dire. Et de penser que cette situation s'est déroulée au Québec, que des gens ont été abandonnés, n'ont pas pu manger, n'ont pas pu boire, c'est épouvantable. Gabrielle Duchesne est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
D'abord, peut-être commençons par le témoignage de Dr Nadine Larente, qui est la directrice des services professionnels au CIUSSS. Qu'est-ce qu'elle avait à dire? Comment elle a pris conscience de ce qui se passait dans cette résidence?
Oui, c'est un témoignage très ébranlant. Puis juste son nom dira peut-être quelque chose à vos auditeurs parce qu'elle avait quand même raconté à l'époque un petit peu sa nuit d'horreur, on va le dire. Docteur Larente est en réunion de cellules de crise, disons là, COVID, avec des collègues cadres quand elle reçoit un texto qui dit SOS. Rien de moins, là, elle a dit, je me souviens très, très bien du SOS, envoyé par une médecin de Héron qui lui dit, en gros, il y a plus personne, tout le monde a déserté, aidez-nous. Donc, Docteur Larente retourne à sa réunion de la cellule de crise, puis en avise ses collègues cadres. Elle apprend que les ressources humaines sont déjà au courant de la situation puis qu'ils cherchent du personnel. On a su là dans le cadre des témoignages qu'effectivement la direction avait appelé pendant 2 jours plusieurs fois pour dire qu'il n'y avait pas il n'y avait plus d'employés à Erin, mais il y avait une vingtaine d'établissements qui étaient dans la même situation, là, qui avaient pas la même situation, mais qui avaient des éclosions à l'époque au même CIUS, au CIUS de l'ouest de l'île, donc ils trouvaient personne pour envoyer. Ce qui fait que Dr Larente, qui est médecin, hein, avant d'être directrice des services professionnels, a décidé, ben moi, j'y vais. Puis une collègue cadre, Martine Daigneault, qui est, elle, infirmière, qui a dit, j'arrive moi aussi. Puis ce qu'elles ont vu, là, le 29 mars, les récits qu'elles ont offerts sont vraiment épouvantables. On parle de gens qui étaient qui n'avaient pas mangé en fait depuis le matin au moins. Là, c'est Martine Daigneault notamment là, qui est arrivée au deuxième étage. Elle arrive, elle voit le plateau de nourriture du matin, c'est le soir. Le plateau de nourriture du matin avec des rôtis. Dans les chambres, les dîners sont pas encore découverts. Elle a les soupers à portée de main, un pâté chinois tellement froid qu'elle n'arrive pas à le couper. Au rez-de-chaussée, Dr Larente doit appeler ses 3 enfants et son mari en renfort tellement il manque de personnel. Elles n'ont pas assez d'équipement de protection pour faire toute la nuit avec les blouses. En fait, la règle veut qu'on change les blouses d'une chambre à l'autre pour pas contaminer tout le monde. Elles n'ont pas pu faire ça toute la soirée. Elles ont trouvé là, des plaies suintantes, des croûtes sur la peau, des lits tellement remplis d'urine là, que, bon, ça c'est Mme Daigneault qui a parlé de ça, là, le cerne d'urine était devenu noir tellement il était là depuis longtemps.
Est-ce qu'on peut penser, Gabrielle Duchesne, que ces conditions que vous décrivez, là, le constat qui est fait, ça s'explique pas juste par la pandémie. Je veux dire, c'est pas arrivé comme ça. Si des gens ont été comme témoins de je dirais, de situations d'hygiène, enfin de manque d'hygiène, ça pouvait dater d'un certain temps.
Ben, c'est ça qui est difficile à comprendre à ce stade-ci de l'enquête parce que ça a commencé mardi puis ça fait 2 jours qu'on entend des témoins venir nous parler du Erin d'avant la pandémie. Il y avait eu toutes sortes d'enquêtes, d'audits, d'évaluations. Puis, bon, il y a eu des rapports de coroner qui avaient sonné des petites alarmes, mais rien d'aussi catastrophique. Le CIUS suivait la situation. Ils offraient de l'aide à Erin, notamment pour se préparer pour des visites ministérielles. Puis, il n'y a rien qui ressort dans les témoignages d'aussi épouvantable. Pourtant, bon, vous voyez hier, Martine Daigneault, l'infirmière cadre qui est allée, a dit ces gens-là avaient soif et pas juste depuis aujourd'hui. Mais tu sais, elle est arrivée là, c'était sa première visite. Donc, en ce moment, c'est difficile à comprendre comment ça a pu. Est-ce que c'est soit on n'a pas remarqué ou bien ça a dégénéré de façon vitesse grand V? Puis c'est ça qui est complexe. Et la coroner pose beaucoup, beaucoup de questions sur la chronologie de tout ça parce que c'est un peu. C'est ça, c'est. J'ai envie de peut-être pas étrange, là, mais il y a beaucoup de questions là, qui sont sans réponse en ce moment.
Parce que des gens. Je dirais à qui on ne donne pas d'eau, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas d'hygiène de base. Je ne sais pas laquelle des témoins qui dit qu'elle a donné de l'eau et que les gens buvaient, ils étaient assoiffés.
Mm-hmm. C'est ça, c'est Martine Daigneault, ça, c'est l'infirmière qui est aussi gestionnaire. Là. C'est quand même étonnant aussi de se dire, bon, mais c'est deux, c'est, ben, ce ne sont pas juste deux, mais c'est des cadres. Quand même supérieure des directrices adjointes qui sont débarquées là la nuit ou le soir en renfort. c'est pas, on n'a pas envoyé, puis ça, il y a toutes sortes de raisons qui expliquent ça, mais on n'a pas envoyé juste des soignants. Là. C'est vraiment des cadres qui sont débarqués là, un peu en éclaireur ou en se disant ce que le docteur Laurent s'était dit initialement, c'est bon, c'est l'heure du souper, il manque de monde, je vais aller les aider à donner le souper. Et quand ils sont arrivés là, c'était pas, il n'y avait pas juste besoin d'aide pour le souper, là. Il n'y avait personne. Il y avait un étage, il semble-t-il, qu'il n'y avait aucun employé. Je pense que la situation était là, à des années-lumière de ce à quoi on s'attendait.
Parlez-moi aussi de la directive donnée par le 811, là, par Info Santé, parce que des employés ont téléphoné pour se faire guider.
Oui, c'est une directive qui était donnée un peu à tout le monde au début de la pandémie, on s'en rappellera, là, mais dans le contexte des CHSLD, ça a été remis en question. En gros, les employés inquiets d'avoir... Il y a eu un premier cas le 27 mars à Erin, chez un résident. Donc, les employés ont appelé au 811 pour dire qu'est-ce qu'on fait. Le 811 a dit, si vous êtes un cas contact, donc si vous avez eu un contact avec cette personne, vous devez vous isoler 14 jours. Ce qui semble être arrivé, c'est que bon, il y a beaucoup de ces employés-là qui se sont isolés, soit en appelant au 811, soit en parlant à un collègue qui leur a dit le 811 dit de, ou qui ont simplement été, ils ont eu peur. Ce qui fait que tout le monde est parti. Et puis c'est comme je vous dis, c'est pas une directive qui était inconnue ou qui était seulement qui a seulement été dite aux gens de Erin, mais ce que le docteur Laurent a dit dans le fond, c'est que ça n'avait pas vraiment de bon sens, cette directive-là, dans le contexte d'un CHSLD. C'est dans le contexte de la société. Vous appelez, moi j'appelle, c'est correct. Mais là, ça fait que les établissements se sont vidés de leur personnel là, d'un coup comme ça, puis qu'il n'y avait plus personne pour les remplacer.
Merci beaucoup, Gabrielle Duchesne. Bonne journée.
Plaisir. Bonne journée à vous.
Gabrielle Duchesne, journaliste à la presse. 2-3 commentaires additionnels. Québec refuse depuis le début la tenue d'une commission d'enquête publique. On peut peut-être comprendre pourquoi aurais-tu le goût, comme gouvernement, d'avoir un rapport en pleine année électorale. On se contente d'une enquête du coroner qui a ses limites, qui établit les circonstances, la cause des décès. On a le rapport de Mme Castonguay qui revient sur la structure administrative. On saupoudre les enquêtes. Je rappelle que dans le cas d'Erin, il n'y a aucune accusation criminelle qui a été retenue. Mais sérieusement, comment peut-on expliquer? Je sais, des gens me disent, ouais, où sont les parents, où sont les proches? Comment ça se fait qu'ils n'ont pas réalisé ça? La question est posée. Je sais qu'il y a beaucoup de proches qui ont réalisé ça, puis qui ont sonné l'alarme aussi. Mais qu'au Québec, pandémie ou pas, des gens sont morts dans de telles circonstances, à un niveau de négligence qui n'a pas de bon sens, quand tu dis que tu ne manges pas, on ne te lave pas, puis tu n'as même pas de l'eau. Je m'excuse, là, mais il y a quelque chose qui est inexplicable. Et je le répète, je comprends le réflexe politique de dire non, on va faire des petites enquêtes, là, à gauche, pas à droite, puis on va avoir 4-5 rapports, puis finalement... Mais c'est quoi la... La conclusion de cette histoire-là, c'est de la négligence année après année. C'est pour ça que je vous dis que hier, quand je voyais les politiciens faire des grands discours puis aller de grandes déclarations de principe, pendant que il n'y a pas 60 ans, là, on n'est pas dans le passé du Québec, on est dans le Québec contemporain face à une pandémie. Puis rappelez-vous tout le débat qu'on a eu, par exemple, sur le déploiement de soldats, de militaires, pendant cette première vague de la pandémie. Hey, on voulait pas question qu'on appelle l'armée, voir si l'armée va débarquer. Cette espèce de réflexe là, de dire non, on veut pas, jusqu'au moment où on dit, ben finalement, ouais, on est dans le trouble. Peut-être qu'on a besoin d'aide supplémentaire. Et je vous dirais en plus, je regarde des situations dans des hôpitaux américains où on a déployé la garde nationale en support parce qu'ils vivent des situations comme on a vu ici. Manque de personnel, des hôpitaux qui débordent, une hausse importante des cas de COVID dans certains États américains.
L'essentiel de Paul Arcand.
Geneviève Comartin a perdu sa mère, Francine Bissonnette. Elle a été assassinée par son conjoint, Daniel Derry. Ça se passe le 5 juin 2016. Après 5 ans de détention, Daniel Derry vient d'obtenir ce qu'on appelle une semi-liberté. Il devra respecter des conditions qu'on va regarder tantôt. Mais là, on se dit, comment se fait-il que ce gars-là peut retrouver une certaine liberté? Mme Comartin est avec nous. Bonjour, Mme Comartin.
Bonjour, M. Arcan.
Votre mère a été assassinée par Daniel Derry le 5 juin, je le disais. Ils étaient ensemble depuis longtemps?
Depuis environ 4 ans.
Et la relation se déroulait comment?
C'était une relation dans laquelle il y avait beaucoup de contrôle, là, ce qu'on parle contrôle coercitif, jalousie. Donc, ma mère était pas libre là, de faire ce qu'elle veut quand elle veut. Là. Elle était surveillée. Donc, c'était une relation qui était très difficile pour elle.
Est-ce que vous avez l'impression qu'elle était sur le point de le quitter quand le drame est arrivé?
Absolument. D'ailleurs, j'ai parlé avec ma mère la veille du meurtre. Puis c'est ce qu'elle me disait là au téléphone. Là. Elle était très, très, très anxieuse. Puis elle voulait quitter. Là.
Derry, il était comment avec vous avant ce drame-là?
Avant ce drame-là, il était correct dans le sens que il y avait une certaine distance. Là, c'est quelqu'un qui est relativement froid. On avait une relation correcte. Moi, même si je savais tout ce qui se passait, je disais rien par peur que je me fasse éloigner de ma mère. Donc, ça restait cordial.
Il a été condamné à 12 ans de prison pour homicide involontaire coupable. Bon, il était détenu de façon préventive, ce qui fait qu'aujourd'hui, il obtient cette semi-liberté. Vous avez tenu à faire entendre vos arguments devant la commission.
Oui, absolument. Moi, j'ai assisté à l'audience, j'ai lu une déclaration. J'ai parlé évidemment un peu de la chronologie des faits là, comment ça s'est passé, comment j'ai vu ma mère dépérir là pendant la relation, et puis tous les impacts là, que ça a eu sur moi et sur ma fille jusqu'à aujourd'hui. Pour moi, c'est inacceptable là qu'il puisse être libéré aujourd'hui après seulement 5 ans depuis l'événement. On se rappelle aussi là, que c'est seulement depuis 2019 qu'il suit des programmes de réhabilitation. Là. Donc, c'est très, très court.
J'ai lu le rapport, la décision, là, en fait, et il y a plusieurs éléments. Quand on commence à lire ça, on a l'impression qu'on va lui refuser. On parle oui. de son côté narcissique, qu'il y a une altercation avec un autre détenu qui a pris à la gorge, que c'est quelqu'un qui commence à peine à gérer sa violence, sa colère, qu'à l'époque où il a tué votre mère, il était en dépression. Autrement dit, tu dis, bon, ben ils vont le garder en dedans. Et là, on nous explique que, bon, il suit des programmes, il a pris conscience de ce qu'il avait fait. Vous croyez pas ça, vous?
Non. Moi, je l'ai entendu parler à l'audience. Puis, c'est clair qu'il n'y a pas de prise de conscience par rapport à sa responsabilité là, sur les faits. Oui, il dit que c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui l'ai tué, j'aurais pas dû la tuer. Mais il n'y a pas vraiment... Il n'y a pas vraiment d'introspection, je dirais. Il dit essentiellement le même discours qu'il disait au début, c'est-à-dire qu'il doit s'entourer de meilleures personnes pour lui. Donc, à quelque part, il remet un peu la responsabilité, encore une fois, sur ma mère.
Avant votre mère, il a fréquenté une autre personne et cette personne-là est décédée subitement.
Oui, absolument.
Est-ce que vous savez ce qui est arrivé? Elle est morte dans quel contexte?
En fait, c'est pas clair. Elle serait morte dans leur maison. Il y a différentes histoires que j'ai entendues là à travers les années, à savoir comment cette femme-là était décédée. Là, il y a eu différentes versions qu'il nous a données. Semblerait-il que la femme serait décédée d'une rupture d'un organe interne, mais j'en sais pas plus. Par contre, ce que je sais, c'est que cette femme-là a vécu de la violence conjugale. De façon assez intense aussi, là, de cet homme-là.
OK. Il tenait, ça faisait partie là, de ses demandes, de pouvoir aller à Chambly, à Brossard, parce qu'il y a un restaurant, entre autres, qu'il aime, puis il y a des amis. C'était bien important pour lui, là.
Ah, ben oui. Je pense qu'il réalise pas du tout la gravité de la situation. Il est un peu déconnecté de la réalité, là, on s'entend.
Et là, dans les conditions de libération, il peut pas se rendre donc à Brossard-Chambly, sauf s'il y a une entente avec son surveillant de libération, il peut pas entrer en contact avec vous, avec votre fille. Puis dès qu'il entre en contact, dès qu'il développe une relation avec une femme, il est obligé d'avertir là, puis de dire qui il est.
Oui, absolument. Mais encore une fois, jusqu'à quel point il est surveillé, jusqu'à quel point on va savoir s'il vient à Chambly. Il n'y a pas encore de bracelet GPS là qui sont légalement utilisables. Là, donc, en théorie, il peut quand même faire ce qu'il veut.
Vous gardez quel sentiment après avoir passé toutes ces étapes là, jusqu'à présenter vos demandes devant le commissaire, les commissaires?
Beaucoup d'incompréhension, beaucoup d'injustice. Tout ce qui, en fait, pour moi, c'était clair qu'il ne devait pas sortir, mais on prend quand même la décision contraire. Puis devant cette décision-là, moi, j'ai pas vraiment possibilité de faire appel ou quoi que ce soit. Donc, pour moi, c'est une grosse machine que je comprends pas vraiment. Ça me laisse aussi avec l'impression que, dans le fond, on parle des féminicides et tout ça, puis qu'on veut faire de la prévention et tout, mais ça se reflète pas dans les actions. Là. Dans les actions, on laisse quelqu'un comme ça sortir après seulement 5 ans.
Merci d'avoir pris le temps d'être avec nous ce matin. Bonne journée, Mme Commartin.
Merci, bonne journée.
Au revoir, Geneviève Commartin. Et la fille de Francine Bissonnette qui a été assassinée par Daniel Derry. Ça s'est passé à Chambly, dans leur résidence, le 5 juin 2005.
L'essentiel de Paul Arcand.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand.
Je connais le principe de base qui a été tellement... enraciné dans le guide alimentaire canadien, faire de la place dans l'assiette aux fruits, aux légumes. Il faudrait que ça occupe, paraît-il, la moitié de l'espace. Et ce qu'on se rend compte avec une étude menée par un chercheur de l'Université Dalhousie, c'est que la grande majorité de Canadiens, on sera peut-être pas surpris, ne mangent pas suffisamment de fruits et de légumes. Sylvain Charlebois est avec nous. Monsieur Charlebois, bonjour.
Bonjour.
Vous n'êtes pas surpris de découvrir que, disons, il y a une certaine tendance à ne pas atteindre les cibles en matière de fruits et légumes?
Non, pas vraiment. Je ne sais pas si vous êtes surpris. Moi, je ne le suis pas du tout. Là. Donc, 29,3% des Canadiens nous ont dit qu'ils suivent les recommandations de Santé Canada par rapport à la consommation recommandée de fruits et légumes. Ce qui est sûr, je me souviens, là, le guide alimentaire de 2019, la moitié de l'assiette, là, la moitié, là, ce sont les fruits et légumes. Alors, soit que les ambitions de Santé Canada sont extrêmes ou les gens ne consomment pas suffisamment de fruits et légumes, point final.
Et les gens donnent quoi comme raison?
Le prix. Le prix est le facteur le plus important, mais je dois vous dire, Paul, le prix n'est pas nécessairement une barrière cette année. Hein. On parle souvent de ce qui est plus cher, là.
Ouais,
on parle vraiment de ce qui est moins cher. Et les fruits et légumes, cette année, particulièrement, sont moins chers que l'année passée. Alors, il y a une opportunité là. Puis l'autre chose qui est particulier cette année, c'est qu'il n'y a pas eu vraiment de gros rappels qui a affecté les fruits et légumes. L'année passée, c'était les oignons, pêche. L'année d'avant, c'était la laitue romaine. Mais cette année, il n'y a pas eu grand-chose. Donc, on n'a pas vraiment fait peur aux consommateurs. On ne leur a pas donné une excuse de boycotter la section des fruits et légumes, finalement.
Bon, il y a cette tendance, là, en tout cas au Québec, pour l'achat local, encourager le commerce de proximité, d'acheter des produits frais. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une majorité de Québécois canadiens qui adhèrent à ces principes-là?
Oui, ben l'achat local est important là, pour tout le monde, je pense. Par contre, lorsqu'on visite l'épicerie, ben la vie rentre en ligne de compte, là, budget, temps, etc. On s'aperçoit qu'à peu près 25 ou 26% des gens vont proactivement, là, de façon proactive, vont rechercher des produits locaux. C'est le prix qui va vraiment les intéresser plus que d'autres choses. L'autre aspect qui décourage les gens d'acheter des fruits et légumes, c'est le temps qu'on doit prendre pour préparer, utiliser les légumes et les fruits en cuisine. Là. Il faut couper, nettoyer, etc. Souvent, les gens aiment moins ça. Et l'autre aspect, c'est l'inspiration. Souvent, les gens ne savent pas quoi faire avec les fruits et légumes. Ça manque. Et on encourage les gens d'aller chercher de l'information pour justement chercher de l'inspiration et d'utiliser des fruits et légumes en cuisine.
Mais je vous écoute, là, puis j'ai une question très générale à poser. Les gens mangent quoi? La tendance... Non, mais c'est-à-dire, tu comprends que c'est de l'ouvrage, là, préparer les repas, puis surtout quand on a une famille. Mais est-ce que on achète des produits congelés, des prêts à manger? On encourage les good food de ce monde? C'est quoi qui se dégage des tendances actuelles? Les gens mangent quoi?
Ben, ils achètent de la nourriture, mais ils achètent du temps aussi. Préparé à l'avance, ça l'aide, là. Souvent, surtout qu'on redevient tranquillement, pas vite, des nomades, là. On se promène un petit peu plus qu'avant, depuis les 12 derniers mois, depuis les 6 derniers mois. Donc, on achète du temps lorsqu'on est à l'épicerie. Puis l'autre chose, c'est le goût, là. Pour tous ceux qui nous écoutent, qui ont des enfants, ils le savent, là. Encourager quelqu'un de manger du brocoli ou du fleur, c'est pas facile, là. C'est moins évident que de manger des hot dogs, des hamburgers, de la pizza. Hein? Fait que c'est le facteur qu'on dit pas, on dit rarement, là, mais souvent le goût est un facteur important. Les gens aiment moins manger des fruits et légumes de façon générale.
Parce qu'on arrive quand même dans la plus belle période de l'année pour. C'est parce que là, c'est l'abondance, puis le prix est aussi suit très bien.
J'ai passé 2 mois au Québec cet été. On a un chalet à Saint-Sauveur. J'ai été extrêmement impressionné des détaillants au Québec qui mettaient en valeur les produits du Québec et les prix étaient abordables. C'était pas hors prix, là.
Non.
Donc, c'est pour ça que cet automne, je m'attends à une belle automne là, pour les produits du Québec.
Parfait. Merci, M. Charlebois.
Au revoir.
Au revoir. Sylvain Charlebois de l'Université Dalhousie. Bien là, ça devient une question de choix. C'est vrai que le budget, là, à certains moments de l'année, est à considérer. Mais est-ce qu'on veut cuisiner? Est-ce qu'on veut que ça nous arrive pratiquement tout près? C'est à vous. C'est dans votre cour, comme on dit. Mais là, c'est une période de l'année exceptionnelle. Puis là, je pense à tous les producteurs maraîchers du Québec qui travaillent, qui se démènent, puis qui ont eu des conditions météo faciles là, cet été pour remplir nos assiettes. Ben, c'est le temps de les encourager. T'sais, j'ai de la misère à croire qu'on achète des légumes congelés au mois de septembre puis au mois d'octobre. Je trouve ça toujours un peu particulier.
L'essentiel de Paul Arcand.
Très bien, 9h41. Le 11 septembre 2001, les frères Jules et Gédéon Naudet étaient à New York, tournant un documentaire avec les pompiers quand les attentats ont été commis, en fait les attaques contre les tours. Et évidemment, la nature du documentaire a été complètement chamboulée. Ils se sont retrouvés donc dans ce chaos et ont vécu à l'extérieur, à l'intérieur, les attaques donc du 11 septembre. Jules Naudet est avec nous ce matin. Jules Naudet, bonjour.
Bonjour, merci.
D'abord, peut-être pour le bénéfice des auditeurs, nous rappeler un peu là ces premiers moments. Je le disais, vous étiez à New York pour faire un film, un documentaire sur les pompiers de New York. Nous dire à quel moment là vous avez réalisé que la journée serait très différente.
En fait, voilà, on avait filmé déjà depuis 3 mois dans cette caserne, et ce matin-là était en fait le dernier moment qu'on devait filmer, parce qu'on devait la jeune recrue qu'on suivait devait partir quelques minutes plus tard. Mais vient cet appel pour une odeur de gaz au coin d'une rue, et tout change à un moment donné alors que je filme les pompiers. On est en plein milieu de la rue et on entend un bruit d'avion qui semble un peu bizarre. Et je me souviens de regarder autour de moi et je vois cet avion qui passe entre deux immeubles et je tourne ma caméra et c'est là où je le filme s'encastrer dans la tour nord. Et là, c'est le moment où le temps devient élastique, tout s'arrête. Et c'est là où je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, tout au long de cette journée, de cette matinée, va empirer de seconde en seconde.
Et vous êtes seul ou votre frère Gédéon est avec vous? Peut-être nous situer.
Oui, alors, en fin de compte, moi, je pensais que mon frère était avec moi, mais il se trouve que mon frère était resté à la caserne, car la jeune recrue qu'on suivait avait été relevée, en fait, déjà ce matin par la prochaine équipe. Sauf que moi, vu que je suivais dans un autre véhicule le chef de la caserne, on ne s'était pas croisés. Donc moi, je m'étais tout simplement dit, bon, il est avec moi. Et ensuite, quand on est arrivé à la tour nord du World Trade Center, il a dû monter avec les pompiers, en fin de compte, dans la tour. Et ce qu'il s'est trouvé, c'est qu'il est resté à la caserne et faisait des allers-retours entre la caserne et le World Trade Center, qui a 5-6 petites maisons. Et qu'au dernier moment, au moment où la tour nord s'écroule, donc la dernière à s'écrouler, par le plus grand des hasards, on doit être à 50 mètres l'un de l'autre à peine, mais on ne le sait pas. Et chacun pense que l'autre est mort dans la tour à ce moment-là.
On imagine ces moments extrêmement difficiles. Votre documentaire, que j'ai vu à plusieurs reprises, est absolument remarquable parce que vous êtes entré à l'intérieur et les images que l'on voit, évidemment, avec toute cette poussière, de voir ces équipes qui se déploient, je pense aux pompiers, aux premiers intervenants, les premiers secouristes, et qui se retrouvent face à une situation dont on n'est pas capable de mesurer l'ampleur. Et on a l'impression qu'ils se disent, mais par quel bout on prend ça? Comment peut-on intervenir?
Oui, mais c'est ça qui est fascinant, c'est que malgré l'ampleur inégale de ce feu, de cette attaque, malgré le fait que c'est la première fois qu'ils vont combattre un incendie aussi haut dans des tours, eh bien, il n'y a aucune peur sur leur visage. Il y a une détermination, il y a des doutes, bien sûr, mais il y a au contraire un sens de dévouement qui est encore plus marquant, qui est le sens de dévouement qu'on voit chez les pompiers à travers le monde, qui en ce moment même travaillent dans une caserne au Canada. Ces gens extraordinaires qui, jour et nuit, sont là pour venir nous sauver. Donc, c'est la nature du pompier de faire face à leur propre peur par rapport à la peur de mourir et de tout faire pour nous sauver. C'est ça qui est extraordinaire chez ces gens.
Et votre film nous permet de voir des gens donc qui, avec courage, vont déployer des efforts et des gens qui vont quitter, par exemple, pour aller prendre l'ascenseur pour monter et des gens qui, malheureusement, vont perdre la vie.
Tout à fait, mais c'est cette journée qui journée terrible de tristesse, d'horreur. Moi, c'est vraiment avec mon frère ce qu'on tire de ce moment, au moment où on a vu le pire de l'humanité, cette horreur du terrorisme. Ce qui nous raccroche à l'espoir, c'est qu'on a vu aussi le meilleur du genre humain. De voir ces pompiers, bien sûr, ces premiers policiers qui montaient avec courage dans les tours, mais aussi ces civils. Ces gens qui s'entraidaient à descendre de 70-80 étages alors qu'ils ne se connaissaient pas et qui disaient « Allons-y, encore un étage ». Et donc de voir cette force, cette résilience chez l'être humain, à un moment, surtout en ce moment, quand on allume la télé, on écoute la radio, les nouvelles ne sont pas toujours très très bonnes, eh bien nous, ce qui nous permet de survivre à ce traumatisme, c'est de savoir que l'être humain est quand même, quand il le faut, est là pour aider et là pour survivre ensemble.
Les images que vous avez dans ce documentaire, je le disais tantôt, sont uniques. Mais vous avez fait le choix aussi, très conscient, de ne pas tout montrer. Notamment, on entend le bruit de gens, malheureusement, qui se lancent dans le vide parce qu'ils sont coincés dans la structure, coincés par la chaleur, par les flammes. Et vous avez fait vraiment le choix de ne pas montrer ces images-là.
Oui, on a fait, et indépendamment l'un de l'autre, on a fait vraiment cette auto-censure. Je pense que ça vient de plusieurs raisons, mais une première, pour moi, je pense qu'il y a un respect à avoir dans la mort. Et je refuse tout voyeurisme de ce genre. Et donc, c'était important pour nous de protéger, sachant très bien que voilà, c'était des gens, c'était un père, c'était une femme, c'était une fille, c'était une grand-mère qui avait une famille derrière. Et donc ces images devaient être protégées pour ne pas traumatiser ces gens c'est important, je trouvais.
Parlez-moi du moment où vous avez retrouvé votre frère, alors que lui était inquiet, tout le monde était inquiet. Comment ça s'est passé?
C'était un moment extraordinaire. En plus, par le plus grand des hasards, un de nos meilleurs amis qui travaillait pas très loin de la caserne était allé à la caserne à ce moment-là. Et quand j'avais posé ma caméra, lui l'a prise et filme ce moment où je retrouve mon frère et on tombe dans les bras l'un de l'autre. Et là, j'ai l'impression que j'ai de nouveau 6 ans et lui 9 ans et il me console. Donc, c'était un moment extraordinaire. Alors qu'on était persuadés l'un et l'autre qu'on avait péri. Eh bien voilà, on était en vie, on était toujours là et c'était un moment très 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 fort que je n'oublierai absolument jamais.
C'est vraiment ce film, en fait, cette couverture qui a lancé vos carrières.
Oui, étrangement, c'est notre premier film, mais c'est surtout là dans ce programme, c'est comme ça qu'on a trouvé notre voix en fait, des choses, des histoires qu'on voulait raconter, mais aussi la façon, toujours ce regard vers l'espoir, vers des gens qui nous impressionnent et qui nous influencent et qui nous donnent envie de se dépasser soi-même. C'est un peu la définition pour moi du héros, qui est quelqu'un d'ordinaire, qui fait quelque chose d'extraordinaire à un moment hors du commun. Et bien c'est ce genre d'histoire qu'on veut raconter.
Mais il y a quand même des coïncidences peut-être dans l'histoire. On souligne les 20 ans de ces attaques alors que les Américains viennent de quitter dans le chaos l'Afghanistan, qui avait été évidemment la réponse aux attentats. Vous avez fait ce documentaire remarquable sur les attentats de Paris, alors que le procès s'amorce après tant d'années et avec quelques accusés. Comment vous avez réagi quand vous avez vu les Américains quitter dans ce contexte, je le disais, chaotique, 20 ans plus tard?
C'est un peu compliqué, mais moi, honnêtement, je reste très très loin de la politique. Parce que je préfère que j'en sais pas assez pour donner une réponse intelligente qui pourrait apporter quelque chose. Donc, je laisserai aux autres parler de ça. Pour moi, c'est un sentiment étrange, effectivement, comme vous l'avez dit, 20 ans plus tard, une boucle bouclée, je ne sais pas.
Le film, je vais y revenir. On s'en était parlé. Je me souviens pas si c'est avec vous, votre frère, mais sur les attentats de Paris. Encore là, vous avez mis en lumière, oui, avec doigté et je dirais respect, les sentiments de ces gens qui ont perdu des proches. Je pense à ce propriétaire de bistrot. Je pense également à l'intervention spectaculaire des policiers qui ont fait en sorte que le bilan ne soit pas plus lourd encore. Ces contacts, ces rencontres avec ces policiers, avec ces survivants ou encore avec ces victimes, comment vous les préparez, comment vous abordez ces gens-là pour les amener à s'ouvrir devant vous?
Je pense que comme tout travail, il y a un grand travail de confiance qui doit s'instaurer. Et la confiance, comme on le sait, n'est pas donnée, elle est acquise. Et donc c'est beaucoup de mois de préparation à aller rencontrer les gens, à leur montrer ce qu'on a fait avant, à leur parler de notre propre histoire, d'où on vient, pourquoi on veut faire un documentaire sur ce sujet et leur expliquer nous-mêmes d'où on vient. Et ça aide, mais voilà, il n'y a pas de raccourci, c'est mettre le temps, voir qu'on est passionné, qu'on le fait pour toutes les bonnes raisons au monde et qu'on a une intégrité artistique qui est importante, qui ne tombe jamais dans le voyeurisme ou dans montrer des images gratuitement comme ça. Au contraire, je pense que notre empathie et notre propre histoire fait que les gens sont au moins prêt à nous rencontrer et ensuite écouter ce qu'on a à faire. Et je suis extraordinairement reconnaissant à ces gens extraordinairement courageux de se livrer avec tant de candeur.
Vous travaillez, me dit-on, sur un documentaire sur l'attaque du Capitole du 6 janvier.
Exactement, en fait. Nous faisons un peu à la façon du 13 novembre, en fait, qu'on a fait notre documentaire sur Netflix du 13 novembre, de montrer pas d'un côté politique, mais d'un côté humain, le minute par minute de cette journée tragique, du point de vue aussi bien des policiers, des congressmen and women, des sénateurs, mais leur staff et les civils qui travaillaient dans au Capitole. Pas les gens qui ont attaqué le Capitole, mais les gens qui travaillaient là.
Ça veut dire que vous avez pu leur parler après je veux pas te devancer, on se reparlera à ce moment-là quand vous allez le présenter, mais...
Bien sûr, non, on est en plein tournage, là, donc on est vraiment dedans, donc... On en reparlera avec grand plaisir. J'adore parce qu'à chaque fois qu'on a un projet, c'est toujours un plaisir de vous parler car j'ai l'occasion de pouvoir en discuter avec vous.
Ben certainement, mais j'ai une question. C'est quand même oui. Un événement qui est frais. Là. C'est au mois de janvier, on est au mois de septembre. Ouais. Qu'est-ce qui se dégage des commentaires de ces gens qui, dans certains cas, avaient un rôle de protection puis dans l'autre, étaient les gens qui étaient ciblés? Là.
Ben, on voit, je pense qu'il y a surtout un grand traumatisme. Qu'on arrive à voir, qui d'ailleurs a beaucoup de parallèles avec d'autres projets qu'on a fait sur des attaques terroristes, même si l'ampleur n'est pas du tout la même, pas le même genre, le même nombre de personnes décédées, mais le traumatisme qui fait que quand on est à ce genre de moment enfermé dans une pièce avec des centaines de gens qui veulent défoncer la porte et venir vous tuer, vous n'importe quoi, le traumatisme que ça crée chez ces survivants est absolument terrible, parce que sur ce moment-là, on ne sait pas si on va mourir ou est-ce qu'on va survivre. Et c'est ça qui ressort le plus. Et c'est ça, d'ailleurs, que je vois dans le fil directeur, en fait, un peu de tous nos projets, et toujours ce traumatisme et qui révèle des choses qui amènent les gens à se surpasser, en fait.
Jules Naudet, vous saluerez votre frère Gédéon. Merci vraiment d'avoir été avec nous. À très bientôt.
Merci beaucoup. Bonne journée.
Jules Naudet, son frère Gédéon. D'ailleurs, le documentaire est présenté sur CNN encore. C'est à voir. C'est unique. Deux cinéastes de grand talent. Et on se souvient tous. Moi, je me souviens, j'étais à l'antenne le 11 septembre au matin. Puis on se demandait... Puis la première info, c'était un avion de tourisme, un petit avion qui avait percuté. Et au fur et à mesure, deuxième avion. Et par la suite... On connaît les événements. Merci d'avoir été là. Bonne journée.
L'essentiel de Paul Arcan.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.